Allez, tout le monde reprend sa place. Les midis redémarrent à 13h. Mon invité du jour sera la romancière belge Caroline Lamarche. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La polémique enfle aux États-Unis. La superstar portoricaine Bad Bunny, un des artistes les plus écoutés au monde, a répondu aux partisans de Donald Trump critiquant sa participation au spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl. Je le cite, « Je suis impatient de le faire ce Super Bowl et je sais que les fans de ma musique à travers le monde sont également ravis. Il succédera ainsi à des superstars comme Madonna ou Beyoncé devant des dizaines de millions de téléspectateurs. » Alors ce choix a indigné des partisans de Donald Trump qui reprochent à Bad Bunny de chanter exclusivement en espagnol. Il a ajouté que sa présence au Super Bowl était une victoire pour tous les latinos aux États-Unis. Bad Bunny au Super Bowl, un choix politique, c'est le dossier du Point Culture du jour.
Otros son se bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mí, Crunch?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Chavo, grote, bien lindo, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos en barata.
Joseph Boone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique musicale, vous êtes aussi rédacteur en chef de Madame Figaro. Présentez-nous en quelques mots Bad Bunny, lui et sa musique.
Bad Bunny, c'est un des artistes les plus streamés au monde, en tout cas sans doute un des plus écoutés au monde. C'est un artiste qui est originaire de Porto Rico. Sa musique est qualifiée de reggaeton. Le reggaeton, c'est une invention quasiment portoricaine qui mélange du rap, du hip-hop, du R&B, plusieurs formes, et du reggae, comme son nom l'indique. Et lui, il a cette particularité de chanter cette musique en espagnol, en hispanique en tout cas. Donc il a une audience qui est celle à la fois des États-Unis mais aussi du monde hispanique. Il a une audience assez internationale, enfin beaucoup plus qu'internationale. C'est un des chanteurs les plus écoutés au monde. C'est un portoricain, c'est-à-dire on est aux États-Unis mais sans être aux États-Unis.
Oui, c'est un statut un peu particulier.
C'est très particulier.
C'est Donald Trump le président, mais en même temps c'est pas un État.
Exactement. C'est vraiment très particulier, mais c'est un endroit qui a beaucoup fait pour la musique latine. La musique de Porto Rico a beaucoup infusé, notamment à New York dans les années 70. Il y a plusieurs mouvements, notamment autour de la salsa. La salsa est déjà elle-même un concentré ou une synthèse de plusieurs genres latino ou hispaniques, un peu comme le reggaeton aujourd'hui. Cette musique-là, la musique qui vient de Porto Rico, elle est très très présente aux États-Unis, notamment à partir de New York. Donc, sa musique à lui, elle est aussi très présente, et son succès fait aussi que c'est le succès de cette musique, et c'est aussi le succès d'une histoire parallèle des États-Unis en quelque sorte. C'est la façon dont cette culture-là existe aux États-Unis. Elle part de Cuba, elle part de Porto Rico, elle part d'Amérique du Sud, mais elle est très présente et il symbolise ça. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que cet homme-là est à la fois américain, mais aussi étranger. Le statut du pays, de l'île, parce que c'est une île dont il vient.
On a aussi beaucoup entendu parler de lui parce qu'il a fait un choix étonnant, vous l'avez dit, hein, c'est une méga star, mais il a choisi d'organiser ses concerts à Porto Rico et pas aux États-Unis dans des immenses salles comme il aurait pu certainement à Los Angeles ou je ne sais où. Et les stars du monde entier et son public du monde entier sont venus à Porto Rico.
Il fait vraiment des choix, et ça c'est intéressant, c'est vraiment très très contemporain, c'est-à-dire il fait des choix à partir de son lieu d'origine, à partir de ça, de son identité première. Et il fait tout pour aider Porto Rico. Il y a des associations pour ça, il défend les droits des portoricains, il y a vraiment cette idée de rendre à l'endroit d'où il provient quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un grand défenseur aussi des droits LGBT, et face à l'administration Trump, aujourd'hui, il dit « Je ne jouerai pas aux États-Unis. Ma tournée ne passera pas par les États-Unis, je fais une tournée mondiale, mais je ne viendrai pas ici. » Et je ne viendrai pas ici pour une raison aussi très particulière, qui est, il le dit lui-même, il dit « Je sais que dans mes concerts, il y aura des Portoricains, des immigrés qui sont aussi des clandestins. » Ils viennent me voir et je ne veux pas que à l'entrée ou à la sortie de mes concerts ou pendant mes concerts, ils se fassent arrêter par l'ICE. L'ICE qui est
la police des frontières.
Voilà. Donc il y a une vraie position politique, un vrai choix et un choix qui est aussi un choix de lutte qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de voir à ce niveau-là de personnalité, de succès et d'affirmation.
Mais alors, pourquoi, comment expliquez-vous qu'il ait été choisi pour chanter dans la mi-temps du Super Bowl? Alors, je le rappelle, le Super Bowl, c'est peut-être l'événement médiatique le plus vu dans
absolument,
l'année. Hein, c'est
absolument
le grand événement. Les mi-temps, c'est encore une autre dimension pour ceux qui y sont invités. Alors là, on invite Bad Bunny. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez été d'abord surpris par ce choix?
Ben, le Super Bowl, il faut le voir vraiment comme un moment où l'Amérique regarde et sanctifie la personnalité la plus forte de son époque. Ça a commencé en 1993 avec Michael Jackson. Michael Jackson, quand il apparaît là, ça ouvre vraiment quelque chose, ça crée vraiment une forme de modernité, peut-être que le mot n'est pas le meilleur, mais en tout cas de modernité sans doute, de ces spectacles-là, de ces grands spectacles. Et regardez les vidéos sur YouTube de Michael Jackson au Super Bowl de 1993, on les voit, il a été filmé, c'est un moment d'acclamation. C'est-à-dire qu'il est là, il est sur scène, debout, avant même de commencer quoi que ce soit, et il est acclamé. C'est le moment où l'Amérique acclame ses superstars, quelles qu'elles soient. Pendant un certain temps, au Super Bowl, ces superstars, elles étaient un peu du passé. Elles venaient un peu du passé, même après Michael Jackson d'ailleurs. Il y avait les Temptations, Diana Ross, etc. On célébrait un peu une histoire,
un parcours,
en allant chercher aussi des artistes noirs, des artistes issus du funk, de la soul, etc. Voilà. C'était une sorte de consécration. Dans les 4 ou 5 dernières années, on est passé à autre chose. C'est vraiment les artistes issus du hip-hop. L'année dernière, c'était Kendrick Lamar. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi devenu un moment d'acclamation, évidemment, mais aussi de confrontation. C'est-à-dire qu'on est vraiment au Super Bowl, à l'endroit où l'Amérique vous regarde. Elle vous reconnaît pour ce que vous êtes. Et c'est vraiment le rêve américain. Et Bad Bunny, en quelque sorte, c'est une forme du rêve américain. Jusque dans ses histoires amoureuses. Il a eu des histoires amoureuses avec des célébrités. Et ça fait aussi partie de ce jeu-là aujourd'hui. Mais c'est aussi le moment où l'Amérique se dit, tiens, peut-être qu'il peut y avoir un clash, un scandale. C'est peut-être aussi le moment où on peut faire avancer des choses. Ou en tout cas, créer des ruptures.
Mais c'est en ça que c'est un acte politique, en fait, de l'avoir choisi, lui?
J'ai l'impression. C'est mon impression que c'est un acte politique, ou qu'en tout cas, lui en a fait un acte politique.
Parce qu'il a accepté donc cette invitation.
Le fait qu'il accepte, alors qu'il dit je ne vais plus tourner aux États-Unis parce que, etc. Le fait qu'il accepte d'être là, d'être le musicien le plus regardé dans le moment le plus regardé, oui, c'est effectivement un acte politique. Et c'est à peu près le seul acte politique aujourd'hui qui est possible face à Trump qui occupe tout l'espace médiatique. Et c'est sans doute ça aussi qui fait peur aux MAGA, aux Trumpistes, c'est-à-dire que d'un coup, quelqu'un apparaît qui est très clairement à l'opposé de leur conviction et qui va propager une parole qui est exactement le contraire de la leur.
En tout cas, ce n'est pas un geste anodin parce qu'on voit depuis qu'il a accepté à quel point la polémique grandit.
La polémique grandit de jour en jour. Là, et c'est en février, donc on verra ce qui va se passer, ce qui va se passer d'ici là. Et il peut se passer plein de choses. On est aux États-Unis, tout est possible.
On suivra ça avec intérêt. On se reparlera peut-être en février pour
peut-être
voir.
Même avant.
Peut-être même avant, tout à fait. Merci beaucoup, Joseph Gouin.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une manifestation est prévue demain après-midi à Paris contre l'expulsion des artistes des frigos.
Oui, un bras de fer a lieu entre la mairie de Paris et les habitants des frigos, menacés d'expulsion depuis plusieurs années. Les frigos, c'est un ancien bâtiment de la SNCF situé dans le 13e arrondissement de Paris, transformé au milieu des années 80 en atelier et lieu d'habitation pour des dizaines d'artistes. Le tribunal administratif a rendu son jugement concernant le sort des derniers résidents. Depuis le 1er octobre, les artistes habitants ont l'obligation de quitter les lieux. Une amende de 100 euros leur est appliquée pour chaque journée d'occupation supplémentaire. Pour protester contre cette décision, le collectif des frigos organise donc une manifestation à 17h ce mercredi devant la mairie du 13e pour faire entendre leur voix et demander l'abandon de la procédure.
Littérature à présent, Stephen King est devenu l'écrivain le plus censuré dans les écoles aux États-Unis.
Oui, un rapport annuel publié par l'association Pen America qui défend la liberté d'expression outre-Atlantique a recensé près de 6900 cas d'interdiction de livres sur l'année scolaire 2024-2025. Parmi eux, 200 concernent des romans de l'écrivain américain et notamment des livres Carrie et Le Fléau. Si les récits horrifiques de Stephen King ne sont pas à mettre entre les mains des très jeunes lecteurs, ces bannissements procèdent d'un mouvement de censure plus large en place depuis plusieurs années dans les milieux scolaires américains. 80% de ces bannissements se concentrent sur 3 États aux mains des républicains, la Floride, le Texas et le Tennessee. Sur X, Stephen King a déclaré, je le cite, « Je suis désormais l'auteur le plus banni des États-Unis. Les libraires moralisateurs n'ont pas toujours gain de cause. On est toujours en Amérique, bon sang. »
Et pour finir, Marie, deux prix littéraires ont été attribués hier.
Oui, le prix des Deux Magots a été remis à l'écrivain suisse Joseph Incardona pour son roman Le Monde est fatigué, paru aux éditions Finitude, un livre sur l'histoire de vengeance d'une sirène professionnelle. Créé en 1933, le prix est doté de 7 500 €. Et par ailleurs, la fondation Martine Aublet a remis hier son prix dédié à un livre de non-fiction lié aux disciplines du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et c'est l'historien Antoine Lilti qui est le lauréat pour son livre L'illusion d'un monde commun, paru aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, il s'intéresse aux Tahitiens qui ont débarqué au XVIIIe siècle en Europe dans les cales des navires. Ce prix est quant à lui doté d'un montant de 10 000 euros.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.